Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radiographique 94.9, je suis Stéphane, responsable du cours IS03 Low Technicisation et Numérique à l'UTC. On reçoit aujourd'hui des étudiants qui ont mené un projet tout ce semestre, un projet de low technicisation. Alors, ils vont nous expliquer un petit peu de quoi ils retournent. Hein. Dans le premier projet qu'on a eu, s'appelait le chaton sportif. Il consistait à alimenter un serveur informatique avec de l'énergie sportive. On avait donc Emma, Mathieu, Maude, Aurélie et il y avait également un co-encadrement de Tobias Olive de Picasoft que j'avais oublié de mentionner. Et puis à présent, eh bien, on a quatre autres étudiantes et étudiants, donc Raphaël, Eva, Corentin, Emmanuel. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Donc vous allez nous présenter à présent le projet Kosoko. L'objectif de ce projet, hein, c'est de mettre en place un système de comptabilité de l'impact environnemental d'un citoyen. Donc c'est un outil numérique qui doit nous aider à, qui a pour objectif de nous aider à améliorer la soutenabilité de notre consommation sur des paramètres environnementaux tels que l'eau, la biodiversité ou encore les émissions de gaz à effet de serre. Mais je ne vais pas en dire plus et si c'est bon pour vous, eh bien, je vous passe la main pour une introduction. C'est parti.
Donc, bonjour à toutes et à tous. Nous allons aujourd'hui vous présenter le projet Kosoko sur lequel Eva, Manuel, Raphaël et moi-même avons travaillé au cours de ce semestre. Donc l'objectif de ce projet, dont l'acronyme signifie « consommation soutenable et conviviale », est de proposer un système de comptabilité de l'impact environnemental d'un citoyen, et ce par la création de deux outils. Le premier est un score écologique appelé KosoScore, et le second est un logiciel téléchargeable sur n'importe quel appareil électronique et qui permet de suivre en temps réel l'évolution de son impact. Donc je passe la main à Manuel pour la suite.
Alors du coup, avant de commencer à réfléchir au sujet, il était important selon nous de rechercher les projets qui avaient déjà été produits dans le passé par différents acteurs, comme par exemple des ONG, des entreprises ou le gouvernement, car vous vous en doutez bien, nous ne sommes pas les premiers à imaginer un tel système de comptabilité écologique. Alors, au premier abord, à l'image du Nutri-Score, on a très vite pensé à la création d'un score écologique qui noterait de A à E les différents biens et services en fonction de leur impact sur l'environnement. Et aujourd'hui, il existe déjà plusieurs scores qui ont le même job, comme par exemple le Planet Score, la note globale ou encore l'Éco-Score, déposé par l'ADEME en 2020. Donc pour rappel, l'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Alors cet Éco-Score, il se base principalement sur les critères du PEF, qu'on détaillera un peu plus tard, auxquels on va ajouter des bonus ou des malus, si par exemple l'emballage des produits est recyclable ou alors s'il est certifié d'un label écologique. Ces scores ne sont pas encore vraiment utilisés en grande surface. Le seul exemple qu'on a pu trouver est celle d'une chaîne de magasins belges appelée Colruyt. On a également pu explorer les différentes bases de données déjà existantes, regroupant des notations selon les critères du PEF encore, comme la base SQL, la base empreinte ou encore la base Agribalise, toutes deux déposées par l'ADEME. Dans la base Agribalise, par exemple, on peut rentrer le nom d'un produit et on nous reverra son impact en fonction du PEF, mais également l'impact par étape du cycle de vie, et même l'impact par ingrédient qui compose l'aliment. Le seul inconvénient est qu'on ne peut pas utiliser, enfin, on ne peut pas différencier deux marques d'un même type d'aliment, c'est-à-dire que si par exemple je rentre dans la base de données pizza au jambon, il n'y aura pas de différence entre la pizza au jambon Sodebo et la pizza au jambon de chez Auchan. Donc grâce à ce travail de recherche, on s'est également rendu compte d'un manque d'un score qui note à la fois bien, service et autres pratiques habituelles, comme par exemple des voyages ou encore l'usage de la voiture. Alors que le secteur de ce dernier représente plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports et que le secteur du tourisme en France rejette autant par an que 11 millions d'habitants français, ce qui représente une grosse quantité non négligeable. Enfin, on s'est rendu compte du manque de conseils intégrés au score pour envisager un mode de vie plus durable. Il existe de même un outil du gouvernement appelé Nos gestes climat qui parvient à donner des conseils à partir d'un petit questionnaire de 10 minutes, mais on trouve que ce n'est pas vraiment représentatif d'un individu parce qu'il manque des informations. Par exemple, quand on nous demande quel type de repas on prend de manière régulière, on demande seulement si c'est un repas végétarien ou carnivore et selon nous, ce n'est pas assez représentatif. Donc dans la suite, on va enfin détailler ce que sont les critères du PEF à travers un extrait de l'audio Association nationale des industries alimentaires intitulé « Comprendre la méthode PEF en 3 minutes ».
No doubt you will have heard of the environmental footprint, but do you really know what it means? The environmental footprint is an indicator that measures the main potential environmental impacts of a product, organization, or service based on its life cycle assessment. This methodology is the result of a proposal by the European Commission, and its aim is to create a single criterion to classify different products based on the impact generated by their production, thereby phasing out the labels currently in existence, which are confusing to consumers. The Life Render project is a European initiative that sets out to promote the implementation of this environmental footprint methodology across the countries that make up the EU. It is a tool designed to assess and disseminate these environmental impacts to the various agents involved in the supply chain.
Après la phase d'état de l'art, nous avons commencé à imaginer diverses idées qui nous paraissent pertinentes pour notre projet. Je vais vous présenter deux de ces idées. Notre projet se base partiellement sur la création d'un score écologique. Le COSO-score sera basé sur différents critères. Tout d'abord, les 16 critères du PEF seront pris en compte. Comme mentionné dans l'extrait que nous venons d'écouter, ces critères visent à intégrer l'ensemble des éléments du cycle de vie dans l'évaluation de l'empreinte environnementale. Nous avons choisi les critères du PEF car ils proposent une variété de critères représentatifs et quantifiables. Ces critères prennent en compte les impacts liés au réchauffement climatique, à l'utilisation des terres et de l'eau, mais aussi à l'utilisation des diverses ressources, renouvelables et non renouvelables. De plus, ces critères sont fiables, étant donné qu'ils sont issus d'une initiative de l'Union européenne. Le PEF dispose également d'une base de données et offre de nombreuses ressources pertinentes pour notre projet. En plus de ces critères, nous avons décidé d'également prendre en compte l'impact des différents produits sur la biodiversité. En effet, d'après nous, cet aspect n'est pas suffisamment considéré dans les critères du PEF. La pondération des différents critères impliqués dans le COSO-score sera définie, par un vote. Ce vote prendra en compte l'avis du grand public, qui comptera pour 20%, ainsi que celui d'experts, qui représentera 80% du vote. Le fait d'intégrer le grand public dans la création de ce score offre une dimension conviviale à celui-ci. En plus de cela, il y a également un aspect soutenable, étant donné que ce score permet de pouvoir avoir son impact environnemental de manière détaillée. Le COSO-score permet d'alerter et de sensibiliser les citoyens sur l'impact de leur consommation quotidienne. Afin de maximiser l'aspect convivial de notre projet, nous avons souhaité intégrer l'idée d'un forum au sein du système. Ce forum serait un espace d'échange et de discussion ouvert à tous les utilisateurs de la plateforme. Le fait de proposer ce forum permettra aux utilisateurs d'être éclairés sur certaines questions qu'ils pourraient se poser vis-à-vis de la plateforme ou bien d'être alertés de l'impact de leur consommation, par exemple. Cette idée est conviviale car elle permet un lien direct entre les experts et les utilisateurs. En plus de cela, cette fonctionnalité peut être utilisée aussi peu ou aussi souvent que l'utilisateur le souhaite. Ce nouvel espace relève également du levier d'imagination car il s'agit de créer et d'imaginer un nouvel espace de communication. D'un point de vue soutenabilité, nous pouvons considérer que les conseils échangés à travers le forum permettront à l'utilisateur de changer son mode de consommation. Le but de ce forum est de créer un espace où l'utilisateur se sent libre de poser toutes ses questions. Cet espace permet de développer l'aspect communautaire de notre plateforme. Nous avons également eu l'idée de diviser le forum en plusieurs sections afin de pouvoir filtrer les discussions pour que les utilisateurs puissent avoir accès facilement à chaque thème de discussion. Ce forum permettrait de faciliter la discussion, mais aussi d'éviter la division entre les utilisateurs, mais aussi entre les différentes sociétés, notamment les entreprises proposant un autre score environnemental. En effet, cette fonctionnalité permettrait également de pouvoir discuter avec d'autres sociétés afin d'échanger sur nos diverses pratiques. Nous allons maintenant vous diffuser un extrait audio d'un document Arte intitulé « Il est temps, l'écologie, un truc de riche », diffusé en 2019.
Ça chauffe. Et ça, l'ensemble des répondants au questionnaire en a bien conscience. Riche, pauvre, jeune, vieux, employé ou cadre, la majorité des répondants est d'accord pour dire que l'urgence écologique est à son maximum.
Clairement, faut tout changer.
Comme ces personnes qui se sentent concernées par l'écologie, nous avons créé des petites histoires mettant en scène des personnages, eux aussi concernés par l'écologie, qui utiliseraient nos livrables pour concrétiser davantage notre projet. Ces petites histoires servent à imaginer, selon les profils des personnages, comment ceux-ci interagiraient avec les outils que nous avons imaginés. Par exemple, nous avons pensé à une fonctionnalité permettant de différencier l'impact par ménage et l'impact individuel d'un citoyen. Pour illustrer cette idée, laissez-moi vous raconter l'histoire de Mélanie que nous avons créée. Mélanie est mère de famille. Son mari, Quentin, sa fille, Anna, et elle ont tous les trois l'application Kosoko. Cependant, elle remarque que son Kososcore est bien plus élevé que celui de son mari. Celui de sa fille est quasiment nul. Elle se rend compte que c'est parce que toutes les dépenses collectives sont répertoriées sur son espace Kosoko. Elle se demande alors comment elle peut faire en sorte de partager les dépenses et découvre le Kososcore par ménage. Maintenant, la famille a un score collectif afin que cela soit plus représentatif. Cette histoire met ici en scène des personnages pour mettre en lumière une fonctionnalité particulière de l'application. Dans le cas de l'histoire précédente, par exemple, une première fonction pourrait être que le système Kosoko permet aux membres d'un même ménage de connaître leur impact familial. Une autre fonction pourrait être d'éviter la disproportion dans le calcul individuel de leur impact environnemental. Il s'agissait ici de la première phase du maquettage. La seconde a été de réfléchir à l'utilisation et l'esthétique du site dans sa globalité. Pour cela, nous nous sommes basés sur différents critères que nous avons jugés importants à prendre en compte dans le maquettage global du site. Premièrement, celui-ci devait être simple et ergonomique. On ne veut pas que quand un utilisateur arrive sur le site, il reparte immédiatement. Nous avons donc imaginé un site simple, mais avec plusieurs niveaux de détails, pour pouvoir accéder à toute information nécessaire. Le site sera également accessible, c'est-à-dire que des outils seront intégrés pour qu'ils soient utilisables par tous, comme une synthèse vocale par exemple. Nous avons aussi imaginé les fonctionnalités que propose le site, comme par exemple une barre de recherche, un forum ou encore la possibilité de scanner des codes-barres. La liste est bien entendu non exhaustive. Maintenant, je vais passer la main à Corentin, qui vous fera un résumé de l'auto-évaluation.
Donc une fois ces trois étapes ont été réalisées, il a fallu que nous évaluions notre projet de façon autonome afin d'anticiper ses forces, ses faiblesses ou encore ses possibles conséquences, positives comme négatives, à court terme comme à long terme. Nous avons utilisé pour cela diverses méthodes telles que l'empreinte fantôme, les effets rebonds ou encore ce que l'on appelle le carré du soin. Nous allons aujourd'hui vous présenter l'une d'entre elles baptisée Outil Diamant. Alors de quoi s'agit-il ? L'outil Diamant est une méthode d'évaluation inspirée du livre « Effondrement » du géonomiste américain Jared Diamond, dans lequel il énonce 5 paramètres en lien avec l'effondrement d'une civilisation. Nous avons ainsi transformé ces 5 points en 5 questions permettant d'évaluer notre projet. Pour chacune d'entre elles, nous avons listé ses impacts positifs mais aussi négatifs et, sans mauvais jeu de mots, nous avons organisé cela sous la forme d'un diamant. Par exemple, à la question « En quoi notre projet va aider les membres d'une société à réagir aux problèmes rencontrés ?», nous avons conclu que le Kososcore permettait de transformer les habitudes de consommation des individus en leur faisant prendre conscience de l'impact environnemental de ce qu'ils achètent. De ce fait, ils changent leur comportement afin de limiter la crise environnementale que l'on connaît aujourd'hui. Le forum que nous proposons au sein du logiciel permet d'ailleurs d'aller plus loin dans cette démarche en favorisant le partage d'informations entre utilisateurs. Une autre question proposée concerne la modification des relations avec les sociétés amies et ennemies. Nous pourrions ainsi imaginer que l'initiative Kosoko influencerait d'autres pays qui pourraient décider de mettre en place des systèmes de comptabilité similaires. On peut par exemple penser à des pays qui ont déjà une politique environnementale relativement importante à l'image des pays scandinaves. En revanche, le Kososcore pourrait avoir un impact néfaste sur la balance commerciale de pays dont l'économie dépend fortement de l'exportation de produits mal notés. On peut notamment penser dans ce cas-là aux pays du Golfe dont une grande partie de la richesse est issue de la vente de pétrole, ressource qui diminuera le Kososcore de tout produit en contenant. Nous pourrions également imaginer que notre score pourrait perdre en crédibilité dans le cas où d'autres scores environnementaux ne noteraient pas un même produit de la même façon que nous le notons. Par exemple, si nous attribuons la lettre B à un paquet de biscuits et qu'un autre score similaire lui attribue la lettre E, le consommateur est tout à fait en droit de questionner la légitimité des deux scores. Cela pourrait ainsi conduire à une perte de confiance du consommateur en un système d'évaluation qualitatif. Et enfin, je vais passer la main à Raphaël qui va conclure cette présentation de notre projet.
Pour l'instant, le score que nous avons imaginé est orienté vers la soutenabilité exclusivement. Mais nous sommes actuellement en train de réfléchir pour y ajouter une dimension pour rendre compte de la convivialité. Nous avons essayé d'imaginer au mieux un outil capable de calculer l'impact écologique d'un citoyen. Cependant, nos actions sont limitées tant que nous n'avons pas la possibilité d'avoir des législations plus fortes, car nous avons besoin de la coopération transparente des producteurs de biens et des fournisseurs de services. Malgré tout, notre projet peut permettre à beaucoup de gens de mieux comprendre et de mieux voir quelle influence ils ont sur le climat. Pour en savoir plus sur le projet, n'hésitez pas à vous rendre sur le site lonum.fr. Merci de votre attention.
Bien, merci de votre présentation. Je crois que c'était très clair. Tu veux ajouter quelque chose ?
Ah non,
non. Ok, j'ai cru, pardon, j'ai vu un signe dans le studio. Eh bien, on a pas mal de questions sur le pad, donc je vous propose qu'on attaque directement. Peut-être une première question qui sera d'ailleurs un peu en lien avec le cours de demain, donc vous n'avez pas encore eu, mais sur la question des besoins et de la démocratie technique. Comment avez-vous réfléchi à comment allez-vous choisir les experts ? C'est-à-dire qui va décider à un moment que tel produit a telle lettre dans tel domaine, etc. Est-ce que donc vous envisagez que ce vont être, enfin voilà, que ça va être des experts ? Est-ce que vous envisagez au contraire que ce serait peut-être des collectifs de citoyens, un mélange des deux ? Est-ce que les connaissances scientifiques dont on dispose actuellement, vous avez parlé donc du PEF par exemple, peut-être que ça vaudrait le coup d'en redonner un ou deux exemples, mais est-ce que on a à votre avis les connaissances suffisantes ? Voilà, donc je ne sais pas si vous avez un petit peu un avis autour de tout cela.
Alors du coup pour ce qui est expert ou pas expert, on avait prévu en tout cas pour ce qui est des décisions prises de manière générale, toutes les décisions prises autour du score, ce seraient des décisions qui normalement seraient partagées. Une partie expert, une partie population, on va dire, où en fait on aurait une pondération plus ou moins élevée. C'est-à-dire qu'on laisserait quand même une plus grande parole aux experts qui, selon nous, ont quand même un avis qui est plus important. Mais on laisserait quand même une part importante pour la population, notamment qui serait capable de voter les différentes décisions prises sur l'application et sur le score, sur l'application directement. Avec une certification pour qu'il n'y ait pas de doublons, pour qu'il n'y ait pas de trolls, etc. Mais voilà, on a conscience qu'avoir un avis des deux côtés est important. Et puis voilà, quoi.
Ok. Est-ce que vous avez d'autres éléments autour de ma question, non ? Peut-être sur le choix de ces experts, hein. Je sais que c'est une question difficile, mais est-ce que vous avez imaginé que ce serait que des profs de l'UTC, que ce serait des scientifiques, que ce serait des représentants des entreprises, que ce serait... voilà, vous avez réfléchi à ça ou vous n'aviez pas abordé du tout cet aspect ?
On n'a pas forcément réfléchi à ça parce qu'on est parti du principe qu'on allait finalement former un même groupe comme le GIEC. Donc je ne sais pas comment sont choisis les experts qui font partie de ce groupe, mais a priori, nous, on va plutôt choisir d'adopter la même démarche. Mais dans tous les cas, ce ne seront pas des chercheurs, ou en tout cas des personnes qui seront trop liées à des entreprises, parce que le but du CosoScore, c'est d'être indépendant des entreprises pour pouvoir proposer un score qui soit... indépendant et dans lequel les consommateurs peuvent vraiment avoir confiance et ne pas se dire que la note des produits a été influencée par la façon dont les experts auront décidé de choisir ces critères.
Ok, donc c'est probablement une ouverture à garder pour votre projet, de se poser la question de la constitution de ce groupe, peut-être pas pour vous, hein, mais pour les suivants. Une autre question qui était posée, mais que je vous transforme plutôt en suggestion pour justement pouvoir, ça traite un petit peu le même sujet, c'est une question était, aviez-vous envisagé une charte autour effectivement de votre projet ? Donc avec ce que vous m'avez dit, j'imagine plutôt que non, mais si c'est oui, vous pouvez, hein, et donc si c'est non, ça peut être aussi une piste à un moment de réfléchir à rendre ces choses-là transparentes. Mais Eva, tu veux ajouter quelque chose ?
Du coup, pour l'instant, on a déjà réfléchi à une charte éthique, du coup des devoirs qu'on s'engage à tenir vis-à-vis de nos utilisateurs, mais aussi vis-à-vis de nos partenaires, par exemple. Donc, notamment, on s'engage à ne pas utiliser les informations personnelles de nos utilisateurs à des fins commerciales, et du coup, on veut leur garantir que ces informations seront uniquement utilisées dans un but informatif et dans le but de les sensibiliser. Et en ce qui concerne du coup plus nos partenaires, on leur assure une certaine égalité, enfin pas une certaine égalité, une égalité tout court. On les traitera tous de la même manière, il n'y aura pas de favoritisme, etc. Et aussi beaucoup de transparence. Ils auront accès à toutes les informations qui seront divulguées sur eux, mais aussi aux calculs qu'on effectuera avec leurs données, etc. Afin de vraiment garantir une transparence, que ce soit vis-à-vis de nos utilisateurs, de nos partenaires ou des gens avec qui on travaille en général.
Ok, ben merci de ces précisions. Alors peut-être toujours autour du même, de la même thématique, là, parce qu'évidemment, je pense que c'est un, c'est un point essentiel de votre projet. Comment le score est calculé, hein. On voit bien qu'effectivement, une fois qu'il existe, eh bien, le diffuser, tous ces aspects-là apparaissent, effectivement, on voit bien comment ça fonctionne. Mais quelque part, peut-être que le constituer, eh bien, c'est la part la plus délicate. Une autre question qui est liée un peu à la dynamique, c'est-à-dire, imaginons effectivement qu'on ait réussi à un instant T à fixer le score d'un certain nombre de produits, eh bien, évidemment, les choses vont nécessairement évoluer parce que l'état des connaissances scientifiques peut évoluer, les modes de construction des objets peuvent évoluer, à un moment, on peut substituer des matières par d'autres, etc. etc. Comment est-ce que vous avez envisagé est-ce que vous avez pensé, comment vous avez envisagé de gérer cette dynamique ?
Eh bien, justement, on avait pensé à remettre à jour régulièrement la pondération des critères, ainsi que ceux-ci d'ailleurs en eux-mêmes, parce que la crise écologique évolue rapidement et de ce fait, même au niveau des produits, un produit qui était A avant ne sera pas forcément A plus tard. Donc du coup, on a décidé de remettre à jour régulièrement la pondération, comme le score écologique d'un produit en particulier.
Ouais, on voit typiquement, on a beaucoup parlé de carbone pendant pas mal d'années. Alors ça ne veut pas dire que ça reste pas un problème important, mais on est en train de parler beaucoup d'eau en ce moment. Donc effectivement, on pourrait typiquement dans le domaine du numérique, on sait que l'impact en eau de la construction des objets, eh bien, peut être tout aussi important, voire plus important que l'impact en carbone. Donc ça peut nous emmener sur des terrains comme ça où à un moment on va se préoccuper d'autres critères. Hein. C'est un peu ce que vous disiez, n'est-ce pas ?
C'est ça. Puis même, il y a eu quelques années, on parlait énormément aussi du trou dans la couche d'ozone, qu'on ne parle plus vraiment beaucoup parce que ça a été un petit peu réglé. Mais enfin voilà, il faut s'imaginer que dans le futur, on aura toujours des petites préoccupations qui vont changer.
Des petites préoccupations, tu nous dis, ouais, tout à fait. Peut-être une dernière question pour conclure et peut-être un peu en ouverture. Comment est-ce que vous envisagez que pourrait se passer la généralisation de l'utilisation de votre application ? Donc, hein, on a compris que dans ces projets, vous les imaginiez, on ne va pas les réaliser, mais imaginons à présent qu'elle existe, par exemple qu'elle soit utilisée, pourquoi pas, à Compiègne ou dans un magasin. Comment est-ce que vous envisageriez sa généralisation ? Est-ce que vous passeriez par, je sais pas moi, les collectivités, vous avez parlé à un moment de loi au niveau de l'État, de l'Europe, que sais-je, ou au contraire peut-être la sensibilisation des citoyens ou des entreprises de distribution, ou voilà, est-ce que vous avez imaginé un peu ces aspects stratégiques de diffusion ?
Alors, en effet, on avait réfléchi à un moyen de faire connaître l'initiative Kosoko au plus grand nombre. Donc, on avait dans un premier temps, on a pensé à mettre en place des campagnes de sensibilisation. Donc, par exemple, dans les écoles ou dans d'autres lieux publics qui permettent de toucher un maximum de personnes. Et nous avions également pensé à mettre en place des publicités, mais des publicités qui soient bien sûr les plus low-tech possibles. C'est-à-dire que, par exemple, on va repenser une publicité classique en créant une pub qui est juste un écran noir, avec simplement du texte blanc qui vient donner des informations sur qu'est-ce que Kosoko, qu'est-ce que ça permet de faire, comment vous pouvez le télécharger, mais vraiment sans jamais inciter à télécharger l'application ou à adopter l'initiative. C'est purement informatif, c'est au consommateur, à l'utilisateur de choisir s'il veut s'engager dans cette démarche, parce que ça reste toujours le choix du consommateur, en aucun cas on va l'obliger à le faire. Donc voilà, c'est pour l'instant on a pensé surtout à ces deux façon de promouvoir notre initiative, et peut-être qu'à l'avenir on en trouvera davantage, ou que finalement il y en a qui vont s'imposer d'elles-mêmes, on ne sait pas encore.
Ok, Raphaël, Eva, Corentin, Manuel, merci à tous les quatre. Je ne sais pas si vous voulez ajouter un dernier mot. C'est bon pour vous. Merci encore. Donc, c'était la présentation de votre projet Kosoko, consommation soutenable et conviviale. Donc, projet que vous avez réalisé en IS3, un cours de l'Université de Technologie de Compiègne. Je vous dis au revoir ensuite, on va accueillir d'ici quelques minutes, 5 à 10 minutes, le projet Contrix D. Donc, on va continuer ces présentations de projet jusqu'à 16h, 16h30 environ. Au revoir à vous. Bonne fin de journée.
Au revoir.